Bienvenue auditeurs en votre compagnie Salsa Bertin pour le libre journal éponyme. Alors oui, premier libre journal de l'été pour ma part. Et j'aurais voulu vous emmener à travers champs, en balade, faire un peu les fous sur le chemin des vacances. Et malheureusement, nous, aujourd'hui, mais je vous promets une belle émission de fin d'été, très distrayante, mais aujourd'hui, non, on va renverser la table avec mes invités. Voilà, on va faire du barouf, on va s'exciter un peu. Mais ça va être distrayant parce que j'ai André Berkoff. Bonjour André Berkoff.
Bonjour,
pour la première
ça
fois
ça.
Mon micro, je suis contente de vous avoir pour renverser la table et ensemble sortir de la matrice. Et puis Philippe Bornet, bonjour Philippe Bornet. Je devrais dire docteur, mais je vous ai appelé Philippe Bornet.
Oh, hein. Mais vous pouvez.
Grand médecin, voilà.
Et clinicien, alors, voilà.
Clinicien et qui nous permet de garder les yeux ouverts, mais dans oui. toutes les acceptions du terme, en fait.
Oui, tout hein? à fait, car la médecine touche à tout à condition d'en sortir, disait Clémenceau.
Ouais, c'est ça. Alors vous, vous avez voilà, le médecin bah, des yeux, l'ophtalmo,
ah oui, c'est vrai.
Dont paraît-il on manque. Je ne sais pas, on n'a jamais été autant devant les écrans, on n'a jamais eu autant de lunettes aussi jeunes d'ailleurs, puisque c'est une injonction de la matrice, c'est-à-dire qu'il faut être devant des écrans de plus en plus petits, avoir l'insupportable avec soi jour et nuit, et passer par lui absolument pour tout. Et donc, vous avez commis un petit ouvrage ensemble, chacun avec son style, qui s'appelle « Du présent, faisons table rase ». Alors, on connaissait la tabula rasa très gauchisante, c'est-à-dire on fait du passé table rase.
L'international même,
l'international,
du passé, faisons table rase,
et voilà,
s'il
la
vous plaît.
Tabula rasa, vraiment, du passé, faisons table rase. Et là, maintenant, c'est du présent que nous faisons table rase. Et je crois qu'effectivement, il y a tout à revoir. Mais alors, peut-être pas, c'est vous qui allez nous le dire, dans le sens où l'entendait un certain personnage qui nous fait office de président de la République et qui disait finalement il faut tout renverser pour créer un monde nouveau, un peu dans l'esprit Grand Reset. J'imagine que pour vous, c'est pas tout à fait le sens dans lequel un grand médecin comme vous qui pratiquez la chose intellectuelle à côté, je veux dire, comme beaucoup de médecins d'ailleurs qui ont plusieurs souvent cordes à leur arc, et puis vous, grand journaliste hein, depuis les années 60 qu'on a entendu sur Téléfront de la gauche jusqu'à la droite, alors c'est pas tout à fait, j'imagine, dans cette acception-là que vous l'entendez.
Non, André non, si, c'est du présent faisant table rase, c'est-à-dire que franchement, le présent tel qu'il se veut, on le voit tout, le rejet qu'il y a actuellement, le ras-le-bol, on va en parler avec vous et avec Philippe Bornet. En fait, si on a fait ce livre, on s'est retrouvé à quatre, disons, hein, il faut mentionner Alain Peretti, Daniel Coscu-Luella, Philippe qui est là et moi-même, pour dire que, au fond, c'est justement, ce n'est plus du passé faisant table rase, ça le wokisme s'en est occupé beaucoup, du wokisme à tous les étages, comme vous savez, de l'Élysée à plus bas, il y a eu cette espèce de volonté de dire, mais oui, il n'y a plus de biologie, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de culture française, il n'y a plus rien, ce qui est une imbécilité totale, parce qu'un arbre sans racines, on sait très bien ce que ça devient. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est de montrer chacun à sa manière et dans son domaine qu'il y a que les racines, au contraire, sont là, qu'on ne peut rien faire comme, si on n'a pas de racines. Et je rappellerai juste quelque chose de Léo Strauss qui disait, non pas Lévi-Strauss, mais Léo Strauss, qui disait « si toutes les cultures se valent, alors que le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût ». Donc, si c'est ça qu'on veut, eh ben, c'est pas notre intention. Mmh. Donc, les voraces, et pourquoi les voraces? Parce que nous
alors,
nous battons contre les voraces.
Voilà, c'est les coriaces. Parce que c'est signé les coriaces d'abord. Hein,
c'est ça.
Avant même vos noms de co-auteurs.
Pourquoi les coriaces?
C'est un groupe, c'est un,
oui,
groupe de copains, d'intellectuels.
C'est ce que Paul Éluard appelle le dur désir de durer. C'est-à-dire c'est un groupe d'amis, d'intellectuels, on se connaît, on a une certaine connivence, mais chacun, après, a des différences, et heureusement aussi. Mais on veut dire simplement quelque chose, c'est qu'on ne peut pas parler de l'avenir sans parler du passé. Et les gens les plus avancés, vous savez, dans les frontières de l'intelligence artificielle et autres, vous le disent. Même un Elon Musk, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, dit ça ne veut rien dire sans racines, sans culture et sans connaissances. Donc voilà, c'est ce qui nous a un peu réunis pour faire ce livre.
Ah oui, Elon Musk, il n'est pas du tout contre les boussoles. Hein. D'ailleurs, il y a des journalistes aux États-Unis qui font le travail qu'aucun journaliste ici n'oserait faire, c'est-à-dire essayer de lui faire parler de Dieu et de Jésus. Et il dit, mais moi Jésus, moi je le suis quand... Enfin voilà, je n'ai pas de problème et je n'empêcherai jamais quelqu'un de suivre Jésus.
Voilà, pas de préjugés.
Et on arrive à le pousser comme ça. Donc en fait, les boussoles, lui, ne les refuse pas. Alors qu'il est à la pointe, en effet.
Exactement. mais ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de quelque chose si on est, vous savez, les deux, vraiment les deux fléaux aujourd'hui, on avait labourage et pâturage était les mamelles de la France. Aujourd'hui, on a cette espèce d'ignorance quelque part crasse et d'idéologie complètement fermée qui sont les deux mamelles fanées de cette France et on espère qu'on va en sortir.
Ouais. Alors Philippe Bornet, alors toujours même question, même punition. Donc sur ce présent faisons table rase qui n'est peut-être pas pour vous non plus dans l'acception d'un certain gouvernant dit français aujourd'hui.
Oui, alors on ne peut pas comprendre le présent, comme a dit André Bercow, si on ne connaît pas le passé. C'est pour ça qu'on apprend l'histoire. C'est pour décrypter, comme disent les journalistes, le présent à partir de ce qui s'est passé. Moi, j'ai eu un maître en journaliste qui s'appelait Raymond Bourgine. Raymond Bourgine nous expliquait que le journalisme consiste à réunir les éléments du présent, les informations, les faits d'aujourd'hui, avec l'enseignement de l'histoire. Ce qui fait que un peu plus tard, ou un peu avant plutôt, Gaxot nous expliquait que l'historien est un journaliste du passé, et on pourrait dire aussi d'une certaine manière que le journaliste est également un historien. Voilà. Donc si on ne se resitue pas dans cette trajectoire spatio-temporelle, eh bien, on se coupe de ses racines et on disparaît, on meurt.
Ouais, ah oui. Donc, le table rase de ce présent-là.
Alors, la table rase du présent, et moi, en ce qui me
en
concerne.
En un mot, puisque ça
alors,
le sujet
en un mot, si vous voulez.
Pour bien le distinguer, hein, oui. De distinguer de ce reset oui. dont on parle.
Voilà. Alors, la table rase consiste à renverser, si vous voulez, tout ce qui se trouve sur la table, ou peut-être, ce qui reviendrait au même, à mettre à côté, sur la même table, tous les éléments d'un passé historique qui nous rattache depuis 15 siècles à notre identité.
D'accord. Je vais quand même montrer aux auditeurs du présent Faisons Table Rase ces auditions de Chiré, ça je ne l'ai pas dit. Voilà. Donc c'est un petit livre vraiment d'été à mettre dans la poche, dense et court à la fois.
C'est un livre de poche et à mettre aussi dans la poche de son cerveau peut-être, pour revitaliser des neurones qui ont tendance, vous savez, le soleil aidant à un tout petit peu se liquéfier. Non, quelque chose qu'il faut dire par rapport au réel, c'est pas de dire oui on va renverser le réel, etc. C'est pas une espèce de vœu pieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en tout cas.
C'est pas le réel, c'est le présent. Mais les mauvaises choses du présent, pas le réel.
Non.
Parce que le réel, c'est celui qui est le plus contré.
Le réel, c'est celui qu'on a oublié au profit du narratif.
C'est ça.
Qu'est-ce qui se passe en ce moment, depuis d'ailleurs quelques temps, quelques décennies? Vous aviez quelque chose qui s'appelait, et c'est tous les pouvoirs, qu'ils soient de gauche ou de droite, de ce point de vue, ça ne change pas, ont leur narratif. Nous sommes le camp du bien, nous savons mieux que vous ce qui est bon pour vous, et donc vous allez écouter notre narratif. Le réel, effectivement, on le met de côté. Nous, c'est justement une entreprise de mettre le réel au centre du jeu. Parce que le réel, c'est le réel. 2 plus 2 égale 4. Vous savez, quand on vous dit il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de biologie, se disent certains. D'autres vous disent, mais oui, mais il n'y a plus d'histoire de France. Il y a la nouvelle France, tout le monde est chez soi, partout, etc. C'est justement, quand on dit tout le monde est chez soi, partout, c'est pour fabriquer des gens qui ne se sentent plus chez eux nulle part. Et c'est ça le vrai problème. Donc nous, on essaye de remettre quelques petites choses à l'endroit. C'est pas du tout pour, juste un mot, c'est pas du tout pour respecter ou célébrer un passé, c'est simplement pour dire quelles sont les valeurs qui nous travaillent, quels sont les fils rouges, quelle est la colonne vertébrale ou les colonnes vertébrales.
Voilà, alors c'est ça. Alors, c'est important ce que vous venez de dire, André Bercow, parce que se sentir chez soi nulle part, c'est se sentir au fond, tout au fond, pas très bien où que ce soit, et surtout mal se comporter, puisque on n'a pas, on est à l'encontre du vivre ensemble, en fait, complètement. Parce que vivre ensemble, c'est partager un commun, des valeurs communes, un paysage commun, une terre commune, des traditions communes. Et quand vous êtes de nulle part, vous partagez rien avec personne, et l'autre, il n'est plus que l'altérité. En fait.
Oui, et l'altérité.
Et plus votre frère, hein.
Mais juste un mot, par exemple, il y a des gens, en fait, aujourd'hui, on le sait bien, c'est leur parti pris. Ils veulent plutôt mourir ensemble que vivre ensemble. faut savoir ce qu'on veut. C'est le parti de la vie ou le parti de la mort? C'est le parti de l'extinction ou le... Or, on peut être, je le dis moi, enfin, en tout cas, c'est un avis personnel, on peut être citoyen du monde et profondément identitaire. Ça veut dire que le monde nous intéresse, ça ne veut pas dire de nous renfermer. Oui. C'est pas une idéologie de d'enfermement, une idéologie d'ouvert, mais on ne peut pas dire, ah oui, ça appartient à tout le monde est là, etc., comme disent un certain nombre de petits bobos.
Oui, Philippe Bornet.
C'est tout à fait vrai, André. D'ailleurs, ça me rappelle, tu sais, cette phrase de Marcel Pagnol. Pagnol, qui est un très grand écrivain, peut-être un des plus grands du XXe siècle, et qui disait la chose suivante, « Du fond de mon village, j'atteins à l'universalité. »
Oui,
parce que Pagnol était un classique. Il parle de quoi dans ses souvenirs d'enfance, de la famille, de sa patrie charmelle, Heimat, comme disent les Allemands. Et il a touché, en tenant ce langage... la totalité du monde. Ah bah je vous rappelle que Marcel Pagnol a été un des premiers Français à tourner en cinéma parlant avec l'aide de cinéastes d'Hollywood qui sont venus l'aider.
Ouais,
bien sûr.
Et de ce village, et parlant de chez nous, parce que moi je suis provençale, parlant de chez nous et de réalité très, vraiment de village. Hein, c'est-à-dire que nous, on avait la guerre. C'est charnel. Et de la dureté. En fait, maintenant, on pense à la Côte d'Azur, la Provence, comme c'est beau. Non, non, c'était pas du tout ça. C'était extrêmement rude. Les gens sont extrêmement rudes et ils le sont toujours, ceux qui sont originaires de là-bas. Faut pas le... C'est... Il y a une gouaille, il y a un léger accent. On est comme ça, on ouvre les bras. Mais en fait, très, très dur. C'est pour ça qu'ils se laissent moins faire d'ailleurs qu'ailleurs quand vous regardez hein, le sud-est. Et en fait, il y avait la guerre de l'eau, il y avait la guerre des villages. Y avait c'était une vie rude, très très froid l'hiver, très très chaud l'été. Et donc effectivement, ce qui est extraordinaire, c'est de dire être ainsi enraciné dans ce petit coin de cailloux, en fait, très beau, mais tout de même, et atteindre à l'universel. Et ça, c'est... vraiment, merci à Philippe Bornet d'avoir cité ça, parce que c'est tellement parlant.
C'est vrai, et d'ailleurs, même un André Gide, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin, qui était quand même un écrivain remarquable, disait « Ce n'est que par le particulier qu'on atteint au général. » Ce qui n'est qu'en creusant, effectivement, qui on est, qu'on peut parler de tout. Et c'est valable, d'ailleurs, pour tous les écrivains et les artistes du monde entier. Et nous, ce qui nous frappe aujourd'hui, vraiment, ce qui a fait qu'on a réagi à tout ça, c'est cette espèce de doxa, cette espèce de murmure, cette espèce de soliloque plus ou moins effondrant en disant « Oui, mais non, mais tout le monde, tout se vaut, toutes les cultures se valent, toutes les civilisations se valent, etc. » C'est vrai, non. On le sait très bien, c'est pas une question de hiérarchie, nous on est les meilleurs, c'est une question de dire on est nous-mêmes, ne nous empêchez pas d'être nous-mêmes. Et puis alors ça va plus loin quand même, juste un mot.
Ouais.
C'est quand même hallucinant aujourd'hui que la seule ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal, c'est par exemple le mâle blanc occidental.
Ah oui, ça, je sais, vous avez même un chapitre dessus, alors ça ne voulait pas digérer.
Mais non,
du tout, je comprends, messieurs.
Et c'est pas parce que je suis moi-même, et Philippe aussi, mâle occidentaux et de plus de 50 ans, c'est pas ça, c'est que cette espèce de culture de la honte, dire « Ah, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, Laurent, serrez ma haine et ma discipline, fouettons-nous », ça va ce masochisme, ça suffit.
Non mais c'est aussi une insulte à tous nos pères, nos grands-pères, nos frères, nos oncles qu'on aime tant. Et heureusement qu'ils étaient là dans nos familles et nos amis, et nos, donc en fait de quel droit on pointerait du doigt, on peut pointer du doigt des gens qui se comportent mal. Mais qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient rouges, qu'ils soient de toutes les couleurs de la création et de toutes les religions, de toutes les origines, avec ou sans religion. Ça n'a pas de sens, en fait.
C'est d'autant plus insupportable qu'on attaque ces gens-là, non pas parce qu'ils ont fait, mais parce qu'ils sont.
Oui, c'est ça. Mais ils sont quoi, en fait? C'est ça, c'est-à-dire que... C'est que, curieusement, il n'y a aucun fait qui était reproché. Et moi, je repense à Delphine Ernotte, en fait. Avant d'obtenir France Télévisions, elle n'avait quasiment jamais travaillé. Elle avait eu un poste, elle avait commencé comme commerciale chez Orange, où il y avait déjà eu beaucoup de suicides. Énormément de suicides.
Mais on ne peut pas dire qu'elle soit responsable.
Ah ben, quand elle a pris, qu'elle a gagné du galon, quand elle est arrivée à France Télévisions, il y a eu énormément de suicides d'hommes. Mmh. Énormément.
Une femme. À France Télévisions ?
Pour 24 hommes, je crois. Oui,
je ne connais pas les
chiffres. À France Télévisions, il y a eu un gros, enfin, en tout cas, beaucoup de gens malheureux. Et quand elle était chez Orange, et qu'elle a pris du galon, non, c'était là qu'il y avait eu 24 hommes et une femme.
C'était plus joyeux,
mais ce que je veux dire, c'est que quand même, c'est en termes de direction et on dirait de management humain, je déteste cette expression. Bah, en tant que femme, elle est quand même, je sais, on peut dire qu'elle n'est pas mieux que les hommes, puisque donc.
N'oubliez jamais ce que disait Françoise Giroud, le féminisme aura gagné quand on élira et on nommera des femmes aussi incompétentes que les hommes ou peut-être plus. C'est le cas.
Oui. Et après, l'enracinement, vous parlez de l'enracinement. Vous disiez qu'on peut être de partout aussi. Enfin, qu'on peut se sentir bien dans le monde. Qu'on peut se sentir bien dans le monde.
Tout en ayant son identité, bien sûr.
Moi qui suis de famille mixte, avec des couleurs, les couleurs de l'arc-en-ciel, enfin bon, eh ben, tout le monde est enraciné, personne n'a de problème avec son pays, personne n'a de problème avec la France. Mmh. Et donc, on crée des problèmes quand même qui sont artificiels, parce que c'est comme la judaïté. Moi, je ne sais pas, on pourrait peut-être en parler, parce qu'il y a quand même pendant longtemps, il y a vraiment des décennies et des décennies où on ne se revendiquait pas d'une chose ou de l'autre, on était français, quelle que soit son origine, sa religion, voilà. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on pointe du doigt quelqu'un, ou quelqu'un va revendiquer quelque chose qui va le séparer, mais en fait, tout ça, c'est très artificiel, puisque l'histoire prouve que on vit ensemble sans avoir à se séparer,
oui,
sur ces différences.
Ce n'est pas par hasard, c'est vrai. Il y a eu toujours, et il y a des idéologies de conquête. C'est-à-dire que j'estime, vous savez, il faut aussi tenir compte de ça. Si j'estime, moi, que mon idéologie, elle est la bonne, et que vous n'êtes pas de cette idéologie, si vous ne croyez pas ce que je crois, eh ben, vous êtes suspecte. C'est pas nouveau, hein. Vous savez, les mécréants, ce qu'on appelle les mécréants, ou les infidèles, ou ceci, ou cela. C'est-à-dire que si on ne s'accepte pas dans sa différence, on se combat dans son altérité. Et quand l'altérité devient une espèce de politique qui consiste à dire, écoutez, nous sommes en territoire de conquête. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je suis très frappé. Les fanatiques, ce qu'ils, il faut lire ce qu'ils écrivent, parce qu'ils sont très cohérents. Hitler avait écrit Mein Kampf en 1923, il disait exactement ce qu'il allait faire 10 ans avant. On peut reprocher beaucoup de choses à Hitler, mais pas sa franchise et sa cohérence. Il avait tout dit, mais on disait, mais c'était rigolo, mais etc. Les fanatiques, les extrémistes écrivent aujourd'hui, hier, des livres, et ils disent, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on veut.
Ouais, mais on voilà les écoute ce qui pas. Va se passer. Voilà. Dans un autre registre, on va revenir avec là, parce qu'il faut essayer, je sais que Philippe Bormé, vous aimez l'histoire, et l'histoire des idées, c'est important pour comprendre justement comment Hitler est arrivé là, et comment, par ricochet, bah jusqu'à notre loi sur la fin de vie, ça arrive jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est important de le dire. Mais ça, j'aimerais bien qu'on puisse le définir. Et dans un autre registre, il y a un homme qui nous prévient depuis des décennies, c'est Jacques Attali, que vous avez connu. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous étiez un homme de gauche pendant longtemps,
oui.
Et puis que vous avez dévié, si on peut dire.
Non, pas dévié, vous savez. Non, je
vais taquine, vous dire une chose. André Bercard.
Non, mais vous avez raison de le faire. Non, mais moi, je veux dire, la gauche auquel j'appartenais, je n'ai pas du tout dévié de ça, mais la gauche n'est plus la gauche. C'est pas par hasard qu'il faut dire, c'est intéressant. Aujourd'hui, le public dit de gauche qui était de gauche, c'est les électeurs je vais peut-être choquer, du Rassemblement National. Pourquoi les gens qui votaient communistes, leur père ou leur grand-père, à 25, à 30%, aujourd'hui ils sont au Rassemblement National? C'est la question qu'il faut se poser. Eux, ils n'ont pas changé. Je veux dire, leur condition n'a pas changé. Mais ceux qui prétendaient être pour le peuple se sont détournés du peuple parce qu'ils ont découvert autre chose, la vaisselle en or et l'escalier de service. Donc ça change la donne.
Ouais, ils ont très très vite découvert, hein. Parce que moi, je me souviens, j'étais toute jeune journaliste, j'avais 16 ans et demi quand j'étais ici. J'ai eu la chance d'assister le créateur de cette radio le lundi pour apprendre, en fait, hein. Mmh. Et j'ai beaucoup appris. Et j'ai découvert un homme qui s'appelait Jean Montaldo, Mitterrand et les 40 voleurs et tout ça. Et en fait, dès le premier jour, ces gens sont arrivés avec toutes leurs belles valeurs de partage et tout. Et dès le premier jour, ça a été la razzia. Et depuis, d'ailleurs, ceux qui sont encore vivants, ça continue, quoi.
Ça, c'est, vous savez, enfin, je veux dire, et Philippe Bonnet le sait autant que moi, c'est-à-dire que le vrai problème qui s'est passé, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et on le voit, on va pas énumérer les hommes ou les femmes politiques qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'ils disent, oui, taxer les riches, et en même temps, on va en première classe au Liban. Bon, je veux bien, mais l'exemple, c'est où est l'exemple? Vous payez l'exemple. Si, je veux dire, si on ne voit pas comment vous vivez, comment on peut comprendre que, au moins, taisez-vous. Ne parlez pas, ne faites pas des leçons de morale à tout le monde quand on voit la manière dont vous vivez.
Alors justement, on va parler de leçons de morale. Après, on va parler d'histoire, mais on reste un peu dans le présent pour voir un peu tout ce qui ne va pas. Parce que vous avez parlé de sortir de là, non pas Matrice, mais Matrix, hein, donc le petit clin d'œil à Matrix, voilà, est évident. Vous nous expliquerez pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette Matrice pour vous, aujourd'hui. Mais on peut continuer à parler des désordres contemporains pour essayer, après, dans un deuxième temps de l'émission, essayer de voir comment on peut y remédier. Parce que souvent, dans des milieux... entre guillemets, alors réac, hein, puisque je vois que c'est un beau t-shirt là, très
mercor.
Alors réaction élémentaire au con. Il n'y a pas écrit mort au con, hein, mais enfin
non,
bon.
C'est pas tout à fait la même chose.
Réaction élémentaire au con, c'est voilà. Bien ce que ça veut dire. REAC.
Donc voilà. Donc voilà, on est souvent taxé de réac. Mais bon, voilà. En fait, réactionnaire, c'est quoi? C'est bien d'être réactionnaire, c'est réagir, cette capacité à réagir dans un monde où les gens ne réagissent plus à rien, même au pire. Qu'aujourd'hui, en fait, on pédale dans la semoule, mais le peuple, et on le voit avec cette nouvelle loi sur l'euthanasie, n'est pas tellement d'accord avec leurs injonctions.
C'est intéressant d'entendre Philippe.
Et voilà, justement, alors je vais vous laisser là-dessus, parce que je pense que le fossé se creuse. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que le fossé se creuse entre eux et quand même le peuple français, qui reste encore un peu trop silencieux, mais...
Alors, tout est dans une citation de Rousseau, qui nous dit que la souveraineté est inaliénable et indivisible. C'est-à-dire qu'en pratique, lorsque vous voulez vraiment vivre dans une république démocratique, vous êtes censé confier un mandat à un représentant, mais ce mandat, en fait, ne peut pas être autre chose qu'impératif. Je prends un exemple. Vous savez que quand on vote aux États-Unis, on désigne des représentants, deux par État, ce qui fait une centaine, etc. Et après, on vote dans un deuxième tour, dans un deuxième niveau pour le président de la République américaine. Je crois, je ne suis pas un grand connaisseur de l'histoire des États-Unis, mais je crois qu'à aucun moment, on a eu un représentant qui s'est affranchi du mandat restrictif qu'on lui avait donné et qui est voté pour un autre président que celui pour lequel on lui avait demandé de voter. Ce n'est jamais arrivé. Et donc, en France, on n'a jamais eu ce système-là. On a toujours eu des mandats délibératifs. Ça, dès le début de la Révolution, dès la Constituante. C'est-à-dire qu'on vote pour quelqu'un, on le désigne, et après, il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que Rousseau était républicain en Suisse et monarchiste en France? C'est parce que la taille du pays n'est pas la même. Quand vous habitez dans une république, dans une vallée suisse, en pratique, si vous voulez, tout le monde se connaît, on se rencontre une fois par an à ce qu'on appelle, je crois, en allemand, la messe, parce que c'est le même mot qui sert à la fois pour la réunion commerciale, le marché du bétail, et puis, puisqu'on fait tout en même temps, il y a une messe à la fin, eh bien, chacun vote, et il vote directement pour la question qu'on lui a posée. Or, nous, depuis 200 ans, on est représentés par des gens qui disent le contraire de ce qu'on pense. Alors, au début, on ne s'en rendait pas compte. Enfin, on s'en rendait compte quand on était attentif. Mais depuis, je dirais, une vingtaine d'années, on ne peut pas, sauf si vraiment on est un crétin, nier le fait que les représentants disent le contraire de ce que nous pensons. Et on en a un exemple, une preuve absolue avec le problème du référendum, le dernier d'ailleurs que nous avons connu, de 2005. On a demandé aux Français s'ils voulaient que la souveraineté française se dissolve à l'état supérieur européen. Ils ont dit non très clairement à 55% et on a demandé au Parlement de dire le contraire. Donc on a triché, personne ne peut le nier.
Et c'est un président qui a décidé ça. Hein,
oui, Sarkozy, un président dont le nom commence par S.
Il a décidé.
Voilà.
Bon, donc, bon, je le dis.
Oui, mais...
De toute façon, j'en parle souvent de
vous pouvez le dire.
De ce volet.
D'accord. Or, si vous voulez, théoriquement, la République, enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit, la règle implicite de la démocratie, c'est de dire que le peuple est souverain. Alors, il ne peut pas y avoir de souverain. Les Français ont dit non, on ne veut pas de cette proposition de dilution dans l'Europe. Et ils ont fait le contraire. Donc, il y a eu en fait un coup d'État Oui. Et les gens qui nous représentent ne représentent plus rien. En fait, leur mandat est nul.
Donc il n'y a plus de démocratie.
Et ben, depuis 2005. Il n'y a plus de démocratie au sens, en tout cas, où Rousseau l'entendait.
Ouais.
Voilà. Et donc, parce qu'avant, on aurait pu dire, oui, mais vous comprenez, c'est normal, les députés délibèrent, ils ont soi-disant une formation intellectuelle, une connaissance de l'histoire, une capacité aussi, parce que sous la Troisième République, débattre au Parlement, c'était un art oratoire aussi. Bon. Et donc, on peut penser en effet que le paysan du fond du Poitou n'a pas cette possibilité, ni le temps d'ailleurs, ni l'envie. Mais maintenant, où nous sommes réunis par des réseaux où l'information circule à toute vitesse, on se demande bien pourquoi le système de la démocratie délibérative est encore en place. D'autant plus qu'on a la preuve, encore une fois, que ce sont des tricheurs. Ils ont triché, ils continuent à tricher.
Bah, ouais. Ils ont tous, ouais. Oui. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, effectivement. Ils trichent institutionnellement. Mais le problème, il est que tant qu'il n'y aura pas... Parce qu'on a oublié l'article 3 de la Constitution, justement, revenons à ça. Ils disent bien le pouvoir par le peuple, pour le peuple, etc. Très bien. Et ils disent le pouvoir s'exercera par les représentants élus et... même niveau par le référendum. Quand vous parlez du référendum, vous parlez de la Suisse, justement, par exemple. Mais la Suisse, c'est vrai qu'ils font des votations. Alors, je veux bien que ce soit un pays plus petit, mais il n'y a aucune raison, aujourd'hui, avec la technologie moderne, avec Internet, avec tout ce qu'on a, on peut vraiment organiser. C'est une position de volonté. Or, le problème, ce qu'on dit ici, pour nous, dans ce livre, c'est quoi ? Si vous savez, tout le monde fait des diagnostics du matin au soir, très bien, on sait, c'est brillant d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Mais le fond, l'alpha et l'oméga, c'est le courage. C'est le courage d'abord, la volonté ensuite. On aime ou on n'aime pas, moi je recommande à tous les, vraiment, à tous les auditeurs de Radio Courtoisie d'aller voir le combat de Gaulle, part 1 et part 2. Au-delà de ce qu'on peut penser de Gaulle et tout ça. C'est-à-dire qu'on voit ce que c'est que quelqu'un qui ne lâche rien, qui est opiniâtre, qui n'est rien à un moment donné, qui dit voilà, il faut qu'on existe. Il faut que la France existe. En 40, la France n'est plus rien, elle est occupée, elle n'est plus rien, je veux dire par là, sur le plan de rapport de force. Et puis il y a un type qui arrive avec trois pelés et deux tondus à Londres et qui dit la France c'est moi. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ce malade mental ? Mais en fait, quelque part, et on voit tout ça avec Giraud et tout ça, je reste un peu là-dessus parce que c'est vraiment fascinant ces 5 heures de film. Parce qu'il montre comment il s'est battu à chaque fois pour dire, attendez, on est là. Rappelez-vous que les Américains voulaient faire un protectorat français avec de la monnaie franco-américaine. C'était ça, en 44-45. Bon, écoutez, il y avait le monsieur John Hachin, qui était sous-préfet de Bordeaux. Enfin, vous connaissez
la France
l'histoire.
Était destinée à être une province. Hein. Voilà. C'est De Gaulle qui a réussi, in extremis.
Juste pour terminer là-dessus, le vrai problème aujourd'hui qui se pose en France et ailleurs, mais beaucoup en France, c'est où sont les colonnes vertébrales, où est le courage, où est la vision. La vision, pas à la prochaine élection, mais pour les futures générations. Vous savez, c'est Churchill qui disait « La différence entre un politicien et un homme d'État, l'homme d'État pense aux futures générations, le politicien pense à sa réélection. Oui. » Ils sont tous là-dedans, en train de penser « Regardez cette foire d'empoigne hallucinante pour 2027. » Ils sont déjà 41 sur le podium, à essayer d'y aller. Mais en disant quoi ? En disant « Les magouilles, les trucs, vous avez vu Wauquiez, vous avez vu les Républicains. » La droite la plus bête du monde, il faut le dire aussi.
Ah oui, c'est vrai, la droite la plus bête du monde. Alors, voilà. On va donner la parole à un auditeur qui nous dit « Bonjour, merci pour cette émission très intéressante. Alors, vous pouvez écrire à toto@courtoisie.rc.fr ou appeler au 01 46 51 00 85 où on vous répondra pour prendre vos messages. Merci pour cette émission très intéressante. En ce qui me concerne, Delphine Ernotte est responsable des suicides à France Télécom. Oui, c'est ça. J'ai commencé au PTT en tant que fonctionnaire catégorie C et j'ai vu les ressources humaines se comporter comme les fonctionnaires de l'État que nous étions, contre les fonctionnaires d'État que nous étions, comme de la merde, enfin je cite. Hein. Je souhaite qu'un jour Delphine Ernotte soit traduite au tribunal judiciaire. La gauche fut pire que la droite, bien courtoisement. Voilà. En tout cas, c'est un témoignage direct. Donc voilà, merci cher auditeur. Et puis, là, c'est un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas. Un petit exemple très démonstratif du mensonge généralisé de la culpabilisation du mal blanc. Au début des années 2000, le ministère de la Santé organise une réunion très restreinte des responsables de prévention du sida pour la présentation des premiers résultats d'une enquête sur les modes de vie des séropositifs suivis à l'hôpital public. Une quinzaine de personnes y sont présentes. Le bilan montre une forte diminution de l'incidence de la maladie chez les toxicos, avec l'échange des seringues et la prise de conscience des risques. Chez les homos, les hommes auraient été en moyenne une cinquantaine de rapports non protégés en un an, etc. Mais le principal groupe dépisté est celui des femmes d'origine subsaharienne, découvertes séropositives à l'occasion de leur grossesse. Les hommes ne sont pas dépistés, ni donc traités, ni soumis à une obligation quelconque, car ce serait stigmatisant. Quelques temps après, sur interprétation de ces résultats, la campagne de prévention insiste sur le fait que les homosexuels sont la principale population à risque. Que les hétérosexuels sont la principale population à risque. Bien entendu, qui n'a pas compris que cette population est celle des mâles blancs hétéros. En fait, c'est vrai que parfois, par idéologie, alors vous qui êtes médecin, Philippe Bornet, on peut dévier de manière mais dangereuse, même pour la santé publique.
Oui, c'est possible. Au début de l'épidémie de sida dans les années 90. Voilà, oui, on pensait qu'en effet, c'était une certaine population, surtout en fait les transfusés aussi.
Les transfusés. Il y avait les transfusés, drogués aussi avec les seringues.
Alors là, c'était la seringue.
On appelait ça le cancer gay à l'époque.
Oui, voilà. Et on disait c'est la maladie de la seringue.
Et le fait d'avoir des multiples partenaires. En fait, il y a une communauté qui avait plus de partenaires que d'autres.
Bien sûr.
En fait. Donc de fait, transmettez plus. Et puis bon, il y a aussi, on ne va pas rentrer dans le détail, mais bon, il y a aussi des pratiques sexuelles qui vont, bref, sont plus dangereuses que d'autres. Mais en fait, voilà. Et donc comment travestir la réalité,
oui,
et du coup mettre en danger aussi une population qui était à risque d'une certaine manière. Donc en fait on les protège et en fait on les fragilise encore plus.
On les protège pas. Il faut arrêter, d'accord, avec ce truc de la protection. L'État ne protège pas aujourd'hui les citoyens. Pourquoi un film, pardon de parler de ça, mais un film aujourd'hui qui est banni partout, qui a, grâce à X et à Elon Musk, a eu 10 millions. Vous savez, vous avez entendu peut-être parler, mais voyez-le, nous poste un petit film, il n'est pas très bon à réaliser, petit budget, ça s'appelle Citizen Vigilante. C'est-à-dire, c'est l'histoire des vigilants, vous savez, type, voilà, on tabasse, on viole, etc. Qu'est-ce qui s'est passé quand même? Trois choses, vraiment. En Angleterre, 250 000 Anglaises, petites Anglaises de 10 à 14 ans, ont été esclavagisées, tabassés, transformés en prostituées, esclavés sexuellement, trafiqués avec des centaines de personnes qu'elles recevaient. Pendant 30 ans, et ça continue encore, l'Angleterre, eh bien, personne ne dit rien, ni la police, ni les services sociaux, ni les municipalités, rien. Pourquoi? Parce que, ah oui, vous allez faire vous traiter de raciste, c'était des gangs pakistanais et bangladeshis. Malheureusement, ça ne veut pas dire que... Bon, mais c'était comme ça, on n'en parle pas. Et d'un autre côté aussi, c'est ça qui est fou, c'est qu'on dit, regardez, le management par la peur. Rappelez-vous le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut faire taire les populations? Vous parliez de ça, et de la démocratie. En leur faisant peur. La peur, c'est la peur. Attention, Covid... Attention guerre, attention climat, attention ceci, attention cela. Et cette France, ce pays liberté, égalité, fraternité, ajoutons terreur. Parce qu'on dit, oh là là, surtout bougez pas. C'est formidable pour soumettre un peuple. C'est lui faire peur. Attention, qu'est-ce qui va m'arriver? Faut que je reste chez moi, faut que je fasse attention. Et voilà, le résultat des courses. C'est ça sur lequel on réagit. Vous savez, c'est juste, je finis là-dessus. Il y a quelqu'un qui avait un Français qui avait écrit ça en 1571, Étienne La Boétie, traité de la servitude volontaire. Relisez-le, c'est comme s'il avait été écrit hier.
Ouais. Alors, Philippe Bornet, on est passé dans cet état de servitude volontaire quand même progressivement. Je pense que quand même, nos arrières, enfin les miens arrière-grands-parents qui étaient dans les tranchées en 14-18, aurait réagi différemment. Par exemple, est-ce qu'il est convenu d'appeler, par exemple, l'épisode Covid, toute cette manipulation d'ingénierie sociale, en fait. Et donc, il y a quand même quelque chose de entre guillemets générationnel. D'abord parce qu'il y a une saignée en 1914 qui s'est achevée en 39-45, avec, je dirais, peut-être les meilleurs d'entre nous qui sont partis aussi. Et puis des femmes qui ont eu des enfants dans les années 50 et qui les ont très mal éduqués, il faut le dire, puisque c'est cette génération des boomers qui a quand même pas fait forcément beaucoup de bien à la France en quelques décennies. Donc, en fait, il faudrait remonter aux origines, comment un peuple entre le peuple français. Moi, je ne parle pas, parce qu'on va parler après d'histoire, peut-être plus d'histoire des idées avec notre différence avec l'Angleterre, l'Allemagne et tout ça, les idéologies. Mais déjà, comment la France, qui est un pays de résistants, le franc, peut entrer à ce point et changer presque d'identité. Enfin, vous allez me dire si je me trompe, hein, peut-être que vous ne voyez pas du tout comme moi. Et entrer en état de servitude volontaire à ce point, parce que là, c'est... Moi, j'ai l'impression, quand on voit les gens, on peut leur dire quoi que ce soit, notamment, par exemple, je voulais qu'on parle de protection de l'enfance et de toutes ces affaires abominables qui explosent, mais qui, en fait, couvaient depuis quelques décennies, quoi. Depuis l'avènement des socialistes, quasiment, ça a toujours existé, mais là, ça a pris de l'ampleur. Et là, en fait, vous pouvez parler même du pire. Les gens ont l'impression que vous avez en face de vous des encéphalogrammes plats. Comment à...
Alors, voilà. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette réflexion. J'ai un peu étudié en tant que médecin, j'ai réfléchi à un proverbe latin qui va vous faire rire, « Tota mulier in utero ». Vous savez ce que ça veut dire ? Toute la femme, la mulier, c'est la femme...
La femme mulier.
La femme, je dirais, en état d'activité sexuelle. C'est pas la jeune fille, c'est très différent, hein. Ouais, très différent dans l'Antiquité. Par exemple, quand on parle des Jeux Olympiques, seules les femmes, les moulières, les femmes sont interdites de jeu. En revanche, les jeunes filles, les pucelles, sont invitées. Voilà, parce que dans la mentalité archaïque, on fait une grande différence entre les deux. Alors, André Berkoff parlait tout à l'heure de violence et de viol. Eh bien, le viol, c'est justement ce que la femme a voulu éviter très vite au début de l'humanité. Et comment évite-t-on le viol et le vol ? Eh bien, en se protégeant derrière une frontière. Et la femme, de par sa sexualité, a mis au point une stratégie qui est toujours la même. La femme recueille, entre parenthèses, le sperme de l'homme, mais ça peut être aussi un individu, quelqu'un. Après, elle le bloque en elle-même, elle le conserve, elle le protège. Et troisièmement, elle le fait grandir. Recueillir, protéger, augmenter. Et donc, la frontière, c'est une invention de la femme. Elle l'a créée à l'image de sa propre matrice, justement, on en parlait avec Matrix. L'utérus magnifié, ça devient la maison. J'ai d'ailleurs une anecdote à vous raconter là-dessus. Je ne sais plus, je ne vous donnerai pas les références exactes, mais elle est quand même assez drôle. Un jour, le découvreur de la trisomie, le professeur Lejeune, fait une conférence au Japon et il explique que... Alors, c'est une conférence devant des religieuses japonaises. Alors, comme ce sont évidemment des femmes âgées et célibataires, il ne veut pas les choquer. Alors, il a besoin de leur expliquer un peu que, en fait, la vie existe dès la fécondation, même si l'ovule fécondé est toujours dans la trompe utérine. Et puis après, il s'avance petit à petit et au 15e jour, il fait son nid. D'ailleurs, on appelle ça la nidification dans la paroi utérine. Et il utilise une image pour ne pas choquer ces religieuses japonaises. Il dit, vous savez, c'est un peu comme, vous savez, une statue en quelque sorte qu'on met au milieu d'un temple. Eh bien, là, c'est la même chose. L'ovule vient et il se fixe au milieu du temple. Et une religieuse vient le voir à la sortie. Elle lui dit, mais professeur Lejeune, mais vous ne croyez pas si bien dire. Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, ce que signifie cet idéogramme ? Et elle lui montre un idéogramme qui ressemble assez vaguement au temple taoïste que vous avez en tête, c'est-à-dire un toit biconvexe et monté sur des pilotis obliques. Elle lui dit, voyez, qu'est-ce que c'est ? Alors, le jeune dit, oh bah, ça ressemble à un temple. Elle me dit, oui, tout à fait, professeur Lejeune, c'est un temple. Mais cet idéogramme, c'est seulement le deuxième sens de l'idéogramme, le sens dérivé. Le sens premier de cet idéogramme, c'est utérus. En japonais, c'est le même idéogramme qui dit utérus et temple. Eh bien, la femme... C'est sa sexualité propre qui lui a suggéré. Lorsqu'elle est à la surface du globe, elle cherche à parcelliser une partie du territoire. Elle veut sacraliser une limite autour d'elle-même, des gens qu'elle aime et qu'il aime. Elle crée le foyer. En grec, on désigne le foyer sous le nom d'oikos. Oikos, vous savez, c'est pas les murs, c'est pas le foyer lui-même, c'est la poutre maîtresse qui soutient toute la maison. Oikos. C'est la femme qui a trouvé ça. Et d'ailleurs, toute la vie des anciens Grecs tourne autour du foyer et en dessous de l'oikos. Par exemple, lorsque la femme se marie, pour exprimer ce moment, elle utilise un symbole qui est le suivant. Elle vient s'agenouiller au milieu du foyer où on trouve les cendres froides de la veille et elle s'agenouille au milieu. Si elle a un enfant, elle fait le tour du foyer plusieurs fois, en courant d'ailleurs avec la nourrice, avec son enfant à la main. Et on lui donne à ce moment-là un nom. Donc, la femme a inventé la frontière. Sans frontière, nous n'avons plus de sécurité, nous perdons notre identité et c'est toute la partie féminine de notre civilisation qui s'écroule parce que tout cela, c'est en fait une seule et même chose. La féminité du monde, la part féminine du monde, la frontière, la sécurité, l'identité.
Donc la part féminine du monde, c'est la Sophia, c'est la sagesse.
C'est la sagesse et c'est aussi l'auctoritas, comme disaient les Romains. Parce qu'une femme enceinte, elle fait grandir en elle-même l'enfant qu'elle a.
C'est pour ça qu'elle est obligée d'en faire un temple, pour protéger ce qui est le plus vulnérable, c'est-à-dire cet enfant à naître, oui. Qui est l'avenir de l'humanité.
Voilà, et une fois qu'il sera sorti d'elle-même, eh bien, elle reproduit ce schéma avec les murs de la maison, et elle dit à l'homme, protège-moi du vol et du viol, et tu seras le maître. Enfin, à l'extérieur.
Entre guillemets.
Pas à l'intérieur. Voilà. Bon, et c'est, si vous voulez, sur ce phénomène de sexualité politique auquel nous allons devoir revenir. C'est-à-dire que nous avons besoin de frontières. Les femmes ont le droit de ne pas être violées. Ça me paraît la moindre des choses.
C'est un acte politique, notamment en Afrique. Dans les guerres entre ethnies et tout ça, le viol était une manière de combattre le peuple.
Pas seulement en Afrique, c'était une arme de guerre.
Une arme de guerre, c'est une arme de guerre, hein.
Oui, parce que la femme, excuse-moi, je t'interromps un instant, la femme, en fait, est indissociable du territoire. Vous savez, par exemple, dans le vocabulaire précieux du XVIIe siècle, voyez, on compare l'homme qui essaie de séduire une femme, on compare toujours la femme à une cité assiégée. Hein, vous avez remarqué ça, voilà.
Et l'homme le conquérant.
L'homme est conquérant. Et alors la métaphore a été d'ailleurs si bien filée au cours des siècles que si vous dites à votre concierge, monsieur un tel a fait la conquête de madame un tel, il va comprendre immédiatement de quoi vous parlez. Alors qu'en fait, c'est juste une métaphore, parce qu'il n'a pas utilisé des drones et des missiles sol-sol. C'est pas vraiment une guerre, mais il s'est emparé de la femme, et s'emparer de la femme, c'est aussi établir son droit sur un territoire. Mmh. Voilà.
Alors, comment expliquer, pour venir à ma question, je suis un peu têtu, pardon Philippe Bornet, qu'on ne soit aujourd'hui arrivé à un peuple qui ne résiste plus du tout. Est-ce que c'est parce que les frontières ont été forcées et qu'on est dans l'anarchie, du coup ? Qu'aujourd'hui il n'y a plus de réaction parce qu'il n'y a plus de protecteurs, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de repères, donc en fait, hein. Quand on n'a pas de frontières, on n'a pas de repères.
Oui, mais c'est arrivé parce qu'il y a les idéologies qui se sont installées. La déconstruction, ce qu'on appelle la déconstruction, sans remonter à Derrida et compagnie, ouais. Enfin, on peut reprendre la fameuse French Theory qui aurait été exportée aux États-Unis et qui serait retournée en Europe sous le nom de woke. Mais a joué un rôle extrêmement important. Et qu'est-ce qui fait que c'est extrêmement important ? Parce que c'est une guerre. Regardez, à partir du moment où on a essayé d'imposer l'écriture inclusive, ne parlons que de ça, et les points IL, etc., etc. C'est une guerre. C'est une guerre peut-être à bas bruit, effectivement,
cognitive,
qui n'emploie pas.
Parce que quand on touche à l'orthographe,
parce que le pouvoir, et c'est là que la droite n'a rien compris politiquement, le pouvoir est d'abord culturel. C'est-à-dire que la droite a laissé à la gauche officielle, l'université, l'école, les journaux, etc., etc. Pourquoi ? Et ils étaient fascinés comme une espèce de... Comme il y avait le cobra, il était là, ils étaient fascinés et sidérés. Et ça a continué. Mais au-delà de droite-gauche, ça a continué dans le fait de se dire, au fond, on vous mène une guerre. Les fanatiques extrémistes religieux vous mettent une guerre, je dis bien les extrémistes, je sépare totalement l'islamisme politique des musulmans, en général, c'est pas du tout la même chose. Mais et puis, il y a l'autre, la déconstruction où fait la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'estime Chère madame, si vous, moi je vous dis, je suis un fourmilier tamanoir. Si vous dites, mais non, Berkov, vous n'êtes pas un fourmilier tamanoir, ah, vous n'êtes pas d'accord, c'est parce que vous êtes bigote, réactionnaire, et quasiment fasciste. Si je m'estime, et vous savez que c'est arrivé, une histoire authentique aux États-Unis, un gosse se prenait pour un chat, sa mère l'amène chez le vétérinaire en disant, il faut soigner mon gosse. Et le vétérinaire lui dit, mais madame, attendez, je soigne les animaux. Eh ben, mon fils se prend pour un chat, donc vous devez le soigner. Elle a fait un procès, bon, qu'elle a perdu. Mais pour vous dire à quel point, à un moment donné, on peut arriver à des dérives, mais qui partent de quoi? Qui partent d'un narratif. Et ce qu'on essaye, à toute fois, ou de plusieurs narratifs, à imposer aux gens. Et on leur dit, quoi? Si vous ne faites pas ça, vous allez mourir. Rappelez-vous quand même, Castex, Premier ministre de la France, qui disait, à temps plein Covid, il disait, vous avez le droit de consommer au café, mais assis, pas debout. Parce que le virus à 1m50, si vous êtes debout, il va vous attraper.
Les Belges ont fait pire, heureusement, ils sont Belges. Vous pouvez voyager dans le train, pendant le Covid, à droite, à l'aller. Mais au retour, il faut être à gauche. Et donc, il a fallu tout un...
Ça, c'est une histoire belge, ça.
Non.
Non, c'est vrai.
C'est une histoire belge, c'est une vraie réalité. Mais t'es raconté en Belgique par des Belges, oui.
Ça, c'est pas mal, oui.
Non, mais en même temps, bon, je vous dis, ils sont belges. Non, mais bon, quand même.
Non, mais pour vous dire à quel point le vrai problème, c'est la manipulation idéologique, la manipulation narrative, la manipulation cognitive, si vous voulez, qui est là en danger. Et c'est là où il faut des instruments de résistance. À petite modeste, notre petit livre essaye d'être un petit instrument comme ça, de dire attention, attention. C'est-à-dire ne pas prendre justement des vessies pour des lanternes. Parce que l'idéologie de la vessie est imposée comme une lanterne. Et elle est présentée comme une lanterne. Mais c'est vieux comme le monde, mais ça marche très bien aujourd'hui.
Vous avez peut-être su aussi dans le genre, alors ça c'est vraiment le wokisme, le transgenrisme dans toute sa gloire. Alors je ne sais pas si c'était en France ou aux États-Unis, je me demande si ce n'est pas en France, où un médecin a été poursuivi, là, oui. Parce que c'était un gynécologue ou une gynécologue qui a refusé de soigner un homme transgenre qui avait voulu se transformer en femme, en lui disant, écoutez, moi je suis comme un gynécologue, je vais traiter l'utérus. Or, ce monsieur, ou cette dame, enfin bon, qui voudrait être une dame, n'a pas d'utérus. Donc il y a un trou qui est mort en fait, parce que l'utérus c'est quelque chose d'extrêmement vivant en réalité.
Mais quand oui, on est un peu, bien,
on fait de la science.
Un auteur a été condamné,
qui se régénère,
je
sais pas. Ouais.
Mais Dora Monto a été condamnée parce qu'elle a dit que il s'agissait de femme avec un pénis. Or dire femme avec un pénis est aujourd'hui, vous êtes absolument transphobe.
Ah
il
bon
faut que vous soyez ah oui.
Femme avec un pénis. Je ne sais pas parce qu'il faudrait le dire justement puisqu'ils veulent être femmes. Enfin, on n'y comprend rien en fait. Mais bon, justement, enfin, bon, ce serait le contraire. Enfin, bref.
C'est ce qu'Elisabeth Lévy appelle le déni de la réalité.
Voilà. Oui, mais à ce moment-là, il y en a plein les hôpitaux psychiatriques, des gens qui vous montrent des théories délirantes et qui sont en crise de délire et qui vont vous dire une chose, son contraire, inventer qu'ils sont mariés au micro, que je sais pas quoi, la table s'est mise à voler et leur a parlé, mais qu'en fait c'est leur mère. Mais en fait, à ce moment-là, on n'a pas de limite. La limite, c'est quand même le réel.
Il n'y a plus de limite non plus.
Le réel, vous parliez du réel pour en venir au début de l'émission.
Oui.
Donc, pour venir à ma question, c'est toujours têtu, voilà.
Comment est-on arrivé là,
nous les Francs, c'est
oui,
ça surtout.
Oui.
Mais bon, parce que bon, un Anglais, un Allemand, bon, un Américain, a fortiori, ne m'étonne pas. Mais un Franc, enfin, nous, les Français.
Ne généralisez pas.
Je provoque. Je n'analyse pas, je provoque.
Bon. Alors, il y a eu plusieurs causes. Si on se targue de vivre dans une démocratie, il est important, évidemment, que tous les citoyens acquittent leur part de service militaire. C'était le cas jusqu'à Jacques Chirac, et c'est normal, puisque quand il n'y a pas de conscription, l'armée se recrute dans une seule partie de la population, et cette population qui a des devoirs supplémentaires aux autres, puisqu'elle est susceptible de mourir dans un combat à haute densité, comme on dit aujourd'hui, elle va évidemment demander le pouvoir. C'est ce qui est arrivé avec tous les dictateurs de l'histoire. Une fois qu'ils étaient victorieux et qu'ils revenaient, ils voulaient commander, c'est normal. Donc, si dans un pays, vous éliminez la conscription, vous êtes en fait en train de passer à une oligarchie. Seuls ceux qui iront sous les drapeaux vont commander. Dans une véritable démocratie, il faut absolument que tous les citoyens, et peut-être même d'ailleurs aussi les femmes, pourquoi pas.
Philippe, l'Amérique, les USA, il n'y a pas de service militaire obligatoire.
Oui, c'est exact.
C'est pas devenu une oligarchie, ni une dictature.
Oui, mais ça pourrait le devenir. Moi, je pense que si les États-Unis sont aujourd'hui ce qu'ils sont, c'est parce que, en fait, comme l'Angleterre, ils sont une île. Nous, oui. En France, on a une frontière ouverte. Oui, une très grande île à l'image d'un continent. Mais si les États-Unis étaient une puissance facile à envahir, ils ne réagiraient pas, ils n'auraient pas la même constitution politique que nous en France, où nous avons toujours dû faire la guerre au reste de l'Europe.
Oui, ça c'est... Non, c'est vrai. Mais le problème aujourd'hui, est-ce qu'en 2026, on est en 2026, quel est vraiment le... Si vous voulez, en fait, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une espèce de, non pas d'effondrement, n'exagérons rien, mais vous savez, cette décadence des empires, moi je suis très frappé de voir ce bouleversement aujourd'hui avec l'arrivée des nouveaux empires, enfin, ou les anciens, mais quand même les États-Unis, la Chine, on va pas faire de géopolitique ici, mais enfin, la Russie, l'Inde, etc. Et qu'on voit l'Europe qui est quoi? Pas seulement la France, mais l'Europe a un tas de spectateurs. Regardez ce qui se passe.
Doucement.
Non, mais je veux dire, cette espèce de l'étrange défaite qu'a conté et dénoncé par Marc Bloch en 40, on vit 40 ans d'étrange défaite. C'est ça la chose la plus importante. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors regardez, moi j'adore Macron quand il dit, mais j'ai appelé Poutine, j'ai appelé Trump, et vous avez vu, fabuleux métaphore, le Charles de Gaulle est rentré à Toulon. Oui, Charles de Gaulle, attention, le théâtre des opérations, nous sommes là, la France est là. Et c'est vrai que la France, c'est pas une petite puissance, ça existe. Et ben voilà, rien n'a été réglé là-bas, mais le Charles de Gaulle est rentré à Toulon. Ça dit tout. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, vous avez la métaphore la plus formidable. Voilà. Ben nous avons fait le petit tour, j'ai téléphoné à Poutine, à machin, alors il passe son temps.
C'est l'agitation de Guignol, en fait. C'est le théâtre de Guignol.
Et c'est terrifiant, parce que ça montre une espèce d'impuissance. On parle de l'Union européenne. On parle de Ursula von der Leyen, on parle de tout ça, c'est quoi?
Madame von der Leyen, qui est-elle? Pas grand-chose, enfin, elle est présidente de tout, d'un, aujourd'hui
madame,
d'un
c'est
empire.
C'est notre patronne
d'un empire
à tous, c'est elle qui décide,
elles sont même plus d'elle, et donc on ne sait pas comment on peut arriver à des situations aussi ubuesques, parce que c'est
elle qui a fait les contrats Pfizer, c'est elle qui a fait qu'on a engagé 70 milliards, c'est qui décide pour savoir qu'on aide l'Ukraine ou pas? Ça se fait, ce que
avec
Philippe disait,
argent,
ça se fait notre argent et sans notre consentement. Voilà.
Et consentement de personne.
Vous payez,
hein,
voilà, c'est tout. Vous êtes, ouvert l'argent, mais le contribuable, vous
alors,
payez. Et
alors,
voilà.
On va revenir à l'autoritas et la potestas. Alors, on va passer un bobino. Mais on va revenir, il faut la potestas et l'autoritas. Parce qu'il faut revenir à ces fondamentaux pour comprendre. Mais avant, on va vous rappeler, chers auditeurs, que vous êtes sur Radio Courtoisie.
Vous êtes près de 2 millions à nous écouter. Mais moins de 20 000 à donner. Pourtant, la gauche veut nous bâillonner. La gauche veut nous tuer. Répondez avec 1 euro. 1 euro pour garantir vos idées. 1 euro contre la censure. 1 euro pour rester libre. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Oui, 2 millions à nous écouter. Hein. Merci, chers auditeurs. Vous êtes nombreux, mais il faut prêcher la bonne parole. Il va falloir relayer le film YouTube. Maintenant, on est quasiment sur toutes les plateformes. Donc, relayer cette émission absolument partout pour qu'on double, hein, qu'on passe de 2 à 4 millions. Voilà. Donc, toujours Salsa Bertin en votre compagnie avec André Berkov qui nous fait la joie d'être là en plus en chair et en os dans le studio avec un magnifique t-shirt de Réac. Réaction élémentaire au con. Alors, on n'aura pas dit mort au con, on l'a bien dit. On est quand même raisonnable ici. Philippe Borné, grand médecin clinicien, qui permet de, à travers sa science multiple, de science, mais aussi de lettres et d'histoire. Voilà, il a fait ses humanités. C'est ce qui nous manque aussi, hein, dans nos formations, humanités. Clair. Les médecins devraient faire des humanités. Moi, je prêche pour que les facs de médecine retrouvent des professeurs humblement comme moi, des professeurs de lettres, mais vraiment, et de culture générale. Mais bon, bref, donc vous nous permettez de garder les yeux grands ouverts en bonne ophtalmo que vous êtes, sur tous les plans. Alors, on parlait justement de l'aveuglement volontaire de notre pays et de cette manière que l'on a de dire, la démocratie, Mais en fait, comme disait une auditrice, là, on m'a donné un message, comme disait Maurras, la démocratie c'est le mal, la démocratie c'est la mort, parce que ça nous conduit à quoi? Ça nous conduit en fait à des despotes qui sont à peine élus comme Macron, parce qu'on peut, voilà, la légitimité est très relative, qui échoue absolument tout ce qu'il fait. Il a échoué en tout. Il n'y a pas un domaine où ça aille en France, hein, après deux mandats, enfin même trois, je dirais, parce qu'il était dans la course avec Hollande avant. Il a échoué sur tous les fronts. Il n'y a pas un seul domaine où il n'a pas échoué. Et on a au Parlement européen une dame, on ne sait même pas à peine qui elle est, et qui décide de tout. C'est complètement lunaire. Donc comment on en arrive-t-on là? Eh bien, peut-être en ayant, nous, les Francs, hein, parce que c'est, on devait être un peu la boussole du monde, d'une certaine manière, hein, le pays de la raison, le pays de la disputation, etc. Comment est-ce que nous, on peut se laisser mener par le bout du nez, par des gens, pour reprendre la formule de ce président, de ce qui nous sert président, de gens qui ne sont rien. Parce que, en fait, par exemple, c'est la première fois qu'on a un président en France qui ne vient de nulle part. On peut regarder sa généalogie, il n'y a rien. Il a épousé la fille de l'épicier, voilà, qui a voulu, et on le voit, le diable est dans le détail, elle a refait les salons d'Élysée, ça j'ai déjà raconté, d'un goût épouvantable. C'est de l'IKEA qui peut être très bien, mais mal digéré et vomi sur un coin de tapis. Et bien voilà ce que ça donne, les gens qui ne sont rien, qui veulent aller au sommet de l'État.
Mais ce n'est pas une question de système, vous disiez, on peut discuter évidemment, Maurras, démocratie ou pas monarchie. C'est un problème de caractère, on revient toujours à ça. Vous savez, ce n'est pas Napoléon, c'était Napoléon, ce n'est pas le système, c'est lui qui a fait le système, ce n'est pas le système qui l'a fait. Je veux dire, il faut bien voir qu'à un moment donné, le vrai problème est un problème d'homme. Vous savez, on dit toujours, regardez, par exemple, on dit taxer les riches. Mais quel rapport entre un Elon Musk, qui est multimilliardaire et peut-être trillionnaire, et quelqu'un comme George Soros, pour parler de ça, de l'Open Society? Ils sont aux antipodes. Ils sont tous les deux milliardaires, ils sont aux antipodes. C'est pour ça que les adeptes de taxer les riches, très bien, oui, très bien. Mais abat les riches, d'accord, c'est pas une question de ça. Vous avez des petits dictateurs, des petits totalitaires dans toutes les classes, et le vrai problème, c'est comment, effectivement, nous avons hérité, et c'est ça, cette 5e République finissante a hérité d'un personnel aussi médiocre.
Moi, je ne crois pas ce que vous... Je ne crois pas. Bon. André Bercot, pardon, oui, de vous contredire, hein, vous êtes mon invité, allez-y. C'est absolument horrible, mais bon. Non, vous savez, moi,
pourquoi
je me... C'est Charles Ludis qui disait « Ma personne n'est rien, mon principe est tout ». Et en fait, c'est que les personnes aujourd'hui qui nous viennent ne sont rien et il n'y a pas de principe derrière. Parce qu'il n'y a pas, et là on va revenir à la question avec Philippe Bornet, il n'y a pas les deux mamelles indispensables. Autoritas et potestas.
Ah, je ne sais pas si vous écoutez de temps en temps Philippe de Villiers sur CNews, mais il a souvent à la bouche les mots autoritas et potestas.
Ah.
Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a eu le même professeur.
Ah.
Oui, notre professeur d'humanité, alors je vais donner son nom parce qu'il faut lui rendre hommage, qui était le père Albert Bonenfant.
Ah oui, un joli nom.
Très joli. A été le professeur de Philippe de Villiers, professeur, vous savez, français, latin, grec. Voilà.
Les bases.
La formation classique et indépassable. Et alors, il nous expliquait, c'est pour ça que je le sais, parce qu'on me l'a appris, qu'il y a deux dimensions dans la souveraineté, l'autoritas et la potestas, l'autorité et la puissance. Donc, la théorie que je développe dans un livre qui, je l'espère, va paraître bientôt, c'est que l'autoritas vient de la femme, en fait, c'est elle qui l'a inventé, qui l'utilise. Ah, oui. C'est son mode de gouvernance, pour utiliser un anglicisme que, par ailleurs, je réprouve. Et l'homme, qui, lui, est un chasseur diurne, il a des muscles, et donc il utilise la force. Voilà. Et quand on réunit les deux, auctoritas et podestas, on aboutit à une souveraineté. C'est la raison pour laquelle Rousseau nous dit que la souveraineté est indivisible. Parce que autorité et puissance sont en fait deux pôles d'un même aimant, on ne peut pas les dissocier. Mmh. Alors, c'est une dialectique, comme disent les philosophes, de la même manière que la tiédeur est une dialectique entre le chaud et le froid. Mmh. Est-ce que ça a un sens de dire qu'une eau est plus tiède qu'une autre? Non. Eh bien, la souveraineté, elle l'est ou elle n'est pas. Et lorsqu'il manque une composante, par exemple, supposez que on ait un souverain qui n'est pas la potestas, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'armée, pas de police, etc., ça vire à la chienlit très vite. Et actuellement, à contrario, nous vivons dans un régime politique qui n'a plus l'auctoritas. Théoriquement, un citoyen doit éprouver pour le souverain une révérence, une affection, un respect. Qui est-ce qui éprouve du respect, de l'affection pour les gens qui nous gouvernent aujourd'hui? Personne. Donc il n'y a plus d'auctoritas, si vous voulez. Sur le tableau de bord, il y avait deux pédales, il y en a une qui ne fonctionne plus. On appuie toujours sur la même, celle de la puissance. Donc c'est quoi la puissance? La police, les services secrets, l'armée, le fisc. On est tenu en bride en permanence. Jamais on ne fait appel à notre liberté, à notre capacité de comprendre et de nous-mêmes nous intégrer dans une société avec un rôle précis et défini, accepté par tout le monde. Et donc, on vire à la tyrannie. Et vivre dans une tyrannie, c'est insupportable. Mmh. Alors, certes, on trouve des tyrans qui... Par exemple, moi, je me suis beaucoup intéressé à une époque à la biographie de Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, c'est le tyran type. Est-ce que vous croyez que c'est un imbécile? Certainement pas.
Non.
C'est un lettré, mais un lettré à un point que vous n'imaginez pas. Mao Tse-tung est un lettré et un érudit.
Ah oui.
Vous savez qu'au début de la Révolution, il monte sur le dos de... Enfin, il monte dans son... Je dirais pas pouce-pouce, son palanquin. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et il fait comme ça des kilomètres et des kilomètres. Ça va durer plusieurs semaines. Et que fait-il à l'intérieur? Il lit. Chaque fois qu'il s'empare d'une propriété en Chine pendant la guerre civile, il dit « Hop, hop, hop !» Les manuscrits, les rouleaux, c'est pour moi. Et d'ailleurs, oui, quand vous le voyez avec Nixon, vous savez, vous vous souvenez, enfin, vous vous souvenez pas, mais nous, on s'en souvient, André. Quand on voyait Nixon avec Mao Tse-tung sur un fond de bibliothèque, le jour où il y a eu le match de ping-pong, tu te souviens, ce qui a donné un prétexte pour que Nixon aille parler aux Chinois, on voyait tous ces rouleaux, c'était des voleries de Mao Tse-tung. Donc le tyran est un être supérieur. C'est un lettré, il est fin, il est intelligent, il peut avoir des résultats remarquables, mais il n'utilise que le pouvoir et la contrainte. C'est ça qui nous le rend insupportable. Alors en plus, quand le tyran est un kéké à lunettes, bah c'est insupportable.
Oui, enfin, le tyran qui a fait quelques centaines de millions de morts. Hein,
ah, oui, des millions, oui, oui.
Ce cher Mao Tse-tung.
Ah, mais oui, non, mais le tyran, tyran est un être de sang.
Non, mais c'est vrai, l'autorité et la puissance et le pouvoir. Le problème, c'est que vous dites qu'il n'y a plus qu'une seule pédale. Non, il n'y a plus. Les deux pédales ne fonctionnent plus aujourd'hui. Ce n'est pas une seule pédale qui fonctionne.
Oui, c'est
que nous sommes en dysfonctionnement total.
On est en
dysfonctionnement,
non, mais est-ce qu'on n'est pas en dysfonctionnement depuis qu'on coupe la tête d'un roi en France? Qui nous dit que ce sang ne retombe pas sur nous, mais enfin, deux fois, je suis désolée, et on voit que son sang ne retombe sur nous quand même, parce qu'il n'y a pas eu... À partir du moment où vous ne demandez pas pardon, la République n'a jamais demandé pardon pour ce crime. Donc, le sang continue à couler sur nous. Et pour moi, qui suis très... Bon, les Templiers me sont chers au-delà de bien des choses, le sang de notre maître des Templiers est retombé sur la France. Et ça continue, je vous le dis. Donc aujourd'hui, la France, elle est de plus en plus maudite et elle ne veut pas lever la tête, elle ne veut pas demander pardon. Mais en fait, il n'y a pas de boussole. Parce que quand je dis mon principe et tout, c'est que on a une autorité. L'autorité, elle ne vient pas de soi-même et de son subjectivisme.
Mais bien sûr que non, elle vient d'une transcendance.
Un président de la République, c'est son subjectivisme. Il dit, moi je pense ça, ça peut être comme ça, je suis brillant, j'ai lu des bouquins, donc ce sera comme ça. Non, mais c'est ça le tyran. Mais oui, le tyran, il n'a pas de légitimité supérieure. Il n'a pas...
Non mais, qu'est-ce que ça changerait si vous avez un tyran avec une légitimité supérieure? Ouais, évidemment, je ne partage pas du tout votre avis.
Une morale, déjà.
Pardon, mais la République... la République n'a pas... Enfin, moi, personnellement, la République n'a demandé pardon à rien ni à personne, parce que c'est très joli ce que vous décrivez, mais enfin, la monarchie et les serfs du temps des serfs, les trois quarts des Français, écoutez...
Mais nous sommes des serfs.
Hein?
Mais nous sommes des
serfs. Non, nous ne sommes pas des serfs. Nous sommes des hommes et des femmes libres. On ne dit pas qu'on n'est pas les hommes et des femmes libres, chère madame, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'autorité de X ou de Y devant laquelle nous allons nous agenouiller. Si les hommes et les femmes de ce pays ne sont pas libres et sont encore dans la servitude volontaire, et voyez, la servitude volontaire, ça a été écrit sous la monarchie.
Mais qu'est-ce que
donc,
c'est
la
un servitude,
cerf, hein? Quoi?
Ben, qu'est-ce que c'est un cerf? C'est mieux qu'un esclave. L'esclave, c'est celui qui travaille pour manger et mettre un toit sur sa tête et basta. Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait.
Et le cerf, c'est celui qui était battu.
Oui.
Vous préférez la condition des cerfs à celle de la condition
de
l'aujourd'hui?
Non, mais le cerf, c'est déjà au-dessus de l'esclave. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? On n'a même pas de propriété privée. Vous êtes obligé de payer un impôt sur votre propriété privée qui s'appelle la taxe foncière, qui n'arrête pas de monter, et vous travaillez juste pour manger et pour mettre un toit sur votre tête et avoir quelques loisirs.
Que le sort qui vous occupe aujourd'hui, vous avez une condition absolument terrifiante. Je veux dire, vous êtes sorti de votre gourbie pour être ici à Radio Courtoisie. Allons. Il faut quand même avoir le sens de la relativité des choses, hein, franchement. Parce que quand on dit « Ah oui, c'était mieux avant », moi ça me fait hurler et me rire.
Je ne dis pas que c'est mieux avant.
Si, c'est ce que vous dites.
Je dis qu'on a une
boussole.
Vous dites
sous la monarchie,
avant.
On était beaucoup mieux.
On va pas avoir une boussole.
Hein ?
Bah, y avait une boussole et en tout cas, notre pays, force est de constater que depuis 200 ans, il s'écroule.
Mais il y a eu des grands moments de gloire. Moi, je ne trouve pas qu'il s'écroule depuis 200 ans. Je trouve que quand on a eu des gens qui ont mené le pays où ils sont... Mais écoutez, franchement, on ne va pas faire de cours d'histoire. Enfin, rappelons-nous, on ne vivait pas ça. Enfin, on ne peut pas dire que ce qu'on vivait il y a encore 200 ans, je parle pour la majorité. Vous savez, l'histoire, elle est écrite par qui ? Elle est écrite par les élites, elle est écrite par les princes, elle est écrite par les gens qui vivaient à Versailles. Mais les autres, vous croyez qu'ils vivaient bien ? Vous croyez que ce qu'on appelle le peuple, aujourd'hui on parle du peuple, on dit que c'est pour le peuple. Bien sûr qu'il y a des faux-semblants, bien sûr qu'il y a des malandrins, bien sûr qu'il y a... Mais, grosso modo, franchement, on oublie de dire combien la pauvreté a reculé. Mmh. On oublie de dire comment on vit quand même autrement.
Le progrès technique. Le progrès de la médecine.
Le progrès alimentaire, le progrès de la médecine, le progrès de la santé. Oui, à l'époque, quand on arrivait à 40 ans, Balzac, la femme de 30 ans, c'était déjà une femme mûre. À 30 ans. Pardon. Alors, si on estime que ça n'a pas d'importance, je veux bien. Mais enfin, il faut quand même remettre.
Ça, c'est les progrès techniques.
Hein?
Les progrès techniques.
Le problème, c'est qu'on peut discuter ici. Dites-moi, quand vous aviez les lettres de cachet et compagnie, vous discutiez, comment vous discutez à Radio Courtoisie ? Vous croyez que quand vous osiez dire quelque chose à propos, que ce soit le roi ou autre, ou le tyran, quelques propos séditieux, vous croyez qu'il n'y avait pas des gens qui tapaient à votre porte pour vous dire vous ne croyez pas quand il y a le chevalier de la barre, quand il y a eu Galilée, quand il y a eu tout ça, quand il disait « et pourtant elle tourne ». Hein, c'était un médecin, un peu comme Philippe Bornet. Mais quand il disait, et pourtant elle tourne, lui disait, mais non, t'as intérêt si tu veux pas être brûlé vif en place de grève ou ailleurs, tu as intérêt à te taire. Faut quand même remettre en perspective tout ça. Faut voir le tableau dans sa totalité, pas un coin du tableau, à mon avis.
Alors, le coin du tableau, alors, quelles sont vos solutions? Puisque l'avant, l'après, moi, je dis pas, c'était mieux avant. C'est
immédiate.
Autre chose. Moi, je parle de quelque chose de plus métaphysique.
Voilà.
Je laisse la parole.
Il faut qu'on organise dans votre émission un débat entre André Bercoff et Jean Sévillia. Et là, ils vont parler de la monarchie, et vous allez voir, ça va être épatant.
Ah oui, et puis j'en ai un ou deux historiens de la monarchie.
Jean Sévillia est très intéressant.
Costaud, parce que j'en ai fait beaucoup sur ces sujets.
Ouais.
Aussi bien sur l'aspect juridique, avec des Stéphane Rials à l'époque, etc., ou des Guy Auger. J'en ai fait beaucoup, donc on peut... Alors là, si vous voulez, moi je serais ravie. Voilà, que ça castagne un petit peu, que ça débatte. Moi, j'en serais absolument enchantée.
Oui, mais vous
alors maintenant, vos solutions. Parce que comme
ah, mes
reste...
solutions, c'est à moi que vous posez la question.
Bah non, mais parce que là, vous êtes venu nous brosser un tableau épouvantable et vous avez dit, bon, bah d'accord.
Épouvantable.
Alors, on va sortir de la matrice. Alors, comment ? Alors, oui, parce que souvent, non, mais si vous voulez, on est dans des milieux où on nous reproche d'être dans la critique, de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est utile, c'est nécessaire,
mais
de ne jamais proposer de solution. Et la solution, c'est de laisser les gens, finalement, choisir le moindre mal, finalement, en disant, tu continues à voter, là, tu as 40 candidats qui se présentent, tu as voté le moindre mal. Mais comme disait Anna Arendt, choisir le moindre mal, c'est choisir le mal. Alors, quelle est la solution ? Philippe Bornet, et puis après, ce sera André Bercoff, ses solutions.
Alors, le livre n'a pas abordé ce sujet. D'ailleurs, j'avais pensé, comme titre, à la partie qui m'a incombé, « Pourquoi la démocratie va mourir ?» Donc, vous n'allez pas retrouver dans notre livre d'éléments de proposition pour un nouveau régime. Alors, en ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que quoi que nous fassions, il y aura une pesanteur de l'histoire qui fera que la démocratie en France va disparaître. Je ne sais pas si c'est pour le bien ou pour le mal, mais je pense qu'il y aura, appelons ça, une guerre civile. Et que, comme disait comme disait l'apôtre Saint Jean, là où sera le cadavre, là s'assembleront les aigles. Et un aigle s'imposera aux autres. Voilà ce qui va se passer. Évidemment, l'histoire est faite par des hommes libres, ça se passera peut-être autrement. Peut-être qu'on va avoir un président génial qui va restaurer la France, la porter à bout de bras. Mais je pense que ce n'est pas la possibilité numéro un. Je suis assez pessimiste sur le moyen terme.
Donc c'est-à-dire pas d'homme providentiel.
Si, il y en aura peut-être un, mais je ne sais pas qui et je ne sais pas quand.
Donc pas, vous pensez que ça ne peut pas arriver par les canaux créés aujourd'hui, qui passent de toute façon beaucoup par les médias, qui eux-mêmes appartiennent à cette élite de grandes entreprises globalistes, etc. Donc de toute façon, c'est à eux qu'ont vraiment le pouvoir, hein. C'est pas ces petits politiciens, hein, bien évidemment. Donc du coup, bah, les campagnes se font à travers ces médias.
Oui.
Quelle est la solution ? Donc on ne voyait pas de...
Ah non, je ne vois pas de solution dans le cadre actuel.
Dans le cas...
On n'a pas juste... Alors,
André Mercoff, bah oui, non, donc, on a encore 10 minutes pour avoir
ça. On ne va pas sortir le lapin du chapeau, c'est clair. Ça se saurait s'il y avait une solution idéale. En tout cas, même, ce ne sont pas les mêmes peut-être pour chacun d'entre nous, mais ça se saurait. Non, je crois aujourd'hui vraiment que moi, au-delà de ce qui peut se passer est vraiment bien malin, serait nous ne sommes pas... Je ne suis pas un voyant, je ne lis pas dans le marc de café... En revanche, je crois que la chose la plus importante aujourd'hui, vraiment, enfin pour moi, c'est de travailler tous, à tous les niveaux qu'on soit, que ce soit le niveau de Philippe Bornet, de vous-même, de moi, de Radio Courtoisie, des médias, enfin des médias en tout cas, libres, il y en a, et heureusement, c'est de travailler à effectivement, je dirais, à augmenter le champ des possibles, en travaillant sur l'esprit critique, en travaillant sur l'offre, je veux dire, en disant, écoutez, moi, je dis toujours aux gens, que ce soit à la radio ou à la télévision, je dis, écoutez, vous nous avez écoutés, c'est très bien, maintenant, allez lire, allez vous renseigner. Alors après, ceux qui veulent le feront, ceux qui ne veulent pas le feront pas. Mais je veux dire, il y a aujourd'hui quelque chose qui me frappe. Alors c'est peut-être je suis optimiste en général et je suis, après on verra ce que ça donnera, mais je suis très frappé par des conversations avec des gens qui, par exemple, par rapport à 20-25 ans et aujourd'hui, je ne dis pas qu'ils sont devenus encyclopédistes, mais ils savent beaucoup plus de choses qu'il y a 20 ans. Moi, je suis très frappé par voir des gens avec qui je discutais. Avant, c'était, vous savez, ils avaient leur journal de 20 heures, ils avaient ceci, ils avaient cela, et ils étaient là. Comme, malheureusement, l'école ne joue plus, malheureusement, son rôle, enfin, si, certains se battent, et très bien, mais il y a cette espèce de connaissance. Ça ne veut pas dire que ça se transforme en volonté, en courage. Moi, je crois qu'il faut être très, très, très... Enfin, je reste optimiste et être ouvert. Parce que, encore une fois, je reviens à ça. Vous savez, je vais vous dire une chose très simple. Regardez, par exemple, on aime ou on n'aime pas. C'est très intéressant. Quand je dis les hommes, regardez les USA aujourd'hui avec Trump et les USA avec Kamala Harris, si c'était Kamala Harris. Regardez la Russie. Et je prends exprès cet exemple qui n'a rien à voir. La Russie de Poutine, la Russie d'Eltsine. Ça n'a rien à voir.
Oui.
Donc, je ne dis pas un homme fait, mais je veux dire, l'action humaine, la valeur humaine, le facteur humain, je reste persuadé que c'est très, 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 très important. Regardez, on parlait d'insécurité, regardez Bukele au Salvador, Javier Milei en Argentine.
Au Salvador, c'est extraordinaire ce président.
Bon, eh ben alors.
Je sais pas, je voulais mettre sa photo partout chez moi, on n'a pas voulu, mais moi je sais, c'est mon idole.
C'est parce qu'il y a il s'appelle Bukele, voilà. C'est lui qui est venu et qui a dit, bon, basta così. Nous on bavasse, lui il l'a fait. Javier Milei, on disait que c'était un rigolo, un charlatan. Je m'appelle. Attendez, tous les économistes distingués disaient, mais l'Argentine, c'est déjà le gouffre, ça va être les abîmes. Regardez comment ça marche en Argentine. Donc, je crois vraiment qu'il faut tenir ça et il faut espérer que je crois beaucoup, encore une fois, à cette espèce de volonté d'opiniâtreté qu'on a vu dans ce film, la bataille de Gaulle, que ce soit, quel que soit ce qu'on peut penser de Gaulle, je parle pas, mais regardez ce que peut faire l'humain. Et ça, ça me rend optimiste.
Ouais. Alors, ben Philippe Bornet, quand même, c'est vrai que ça redonne de l'espoir. C'est vrai quand on voit ailleurs que sous notre nez directement. Après, moi j'ai été dure avec les Français, mais il n'empêche que j'ai la chance par mon métier de rencontrer encore beaucoup, beaucoup de gens, mais très très divers, des centaines, voire des milliers par an, et je vois que les gens sont de plus en plus éveillés. Moi, ils ne savent pas comment faire. Et rien que là, ces derniers jours, j'étais deux jours avec ce que j'appelle l'élite. C'était des grands, grands sportifs, tous dans des équipes nationales, des jeunes formidables. Ils sont non seulement sportifs, ils font leurs études. Il y en a même une, par exemple, c'est une championne olympique. Elle fait ses études et elle a sa boîte de coaching. Et ce sont des gamins, mais incroyables. Moi, je veux dire, j'étais épaté par eux. Hein. Enfin, je veux dire, on avait aussi des scientifiques avec nous. Extrêmement éveillé, extrêmement. Enfin, c'est bon, voilà. Donc, rien que là, j'étais avec des dizaines de personnes là, ces derniers jours, vraiment de grande, grande qualité. Et des gens, des Français comme ça, j'en rencontre énormément. D'ailleurs, c'est pour eux que je continue. Parce que sinon, je baisserais les bras, et puis j'irai cultiver mon jardin, je voyagerai, et puis j'attendrai que ça passe. Vraiment. Parce que sinon, Donc, par rapport à ce que disait. André Berkoff, Philippe Bornet, vous lui répondez sur effectivement croire en l'humain d'une certaine manière. J'aime pas trop cette formule, mais je pense que oui, des hommes et femmes exceptionnels qui peuvent se dresser.
Je crois en l'humain et je crois en la liberté de l'homme. C'est pour ça que je ne crois pas au progrès, puisque le progressisme, c'est croire que le progrès est inévitable et nécessaire. Et c'est pas possible. Il y a des périodes où on se rapproche, on s'améliore, et d'autres, au contraire, où on est entré en décadence. Voilà.
Donc, alors là, l'émission n'est pas tout à fait terminée parce qu'il faut laisser la parole aux auditeurs pour finir cette émission avant de ne pas vous laisser conclure. Un auditeur, bonjour, rappelez-vous la conclusion de Jacques Bainville en regardant les différentes situations et différents régimes en France, tout a toujours très mal marché.
Une citation bien classique. Là.
J'adore.
Oui.
Bainville, ouais. Ouais. L'avenir derrière nous, quoi.
Bon. Denis, alors, un auditeur, bonjour, pouvez-vous me dire combien de taxes sous les rois et combien de taxes aujourd'hui? Ah bah oui, et bah alors ça, j'en sais, il vous répondrait très très bien.
J'avais un
ancêtre. Ça n'a mais rien à voir.
Oui. Ah non, rien
on
à
était
voir,
à 10%, ouais. Aujourd'hui on est à 70%, on peut même jusqu'à à 80% avec l'impôt sur les alors André Berkoff. Hein.
Oui, c'est vrai. Non mais la liberté, c'est l'inverse de la pression fiscale.
Eh oui, bien sûr.
Ouais, je voudrais savoir aussi quelle était la sécurité sociale du CER, qui était la sécurité sociale du peuple français en 1400 ou 1500.
Ouais. Hein. Et c'est l'Église qui a ouvert tous les hôpitaux gratuitement et tout ça.
Qui était payé par la DIM, parce que dans les 10%, il n'y a pas Donc ça fait 20%. Voilà.
Tout était bien organisé. C'était mieux avant ou mieux aujourd'hui? Je dirais qu'aujourd'hui, tu es libre de te taire, car la justice veille. Le nombre de patriotes français en garde à vue condamnés ou devant la justice, bien courtoisement. Alors moi, le sketch que j'aurais voulu, on n'aura pas le temps de le passer, c'était c'est cet humoriste que j'aime bien, qui disait, il y a eu des manifestations, notamment pour la protection de l'enfance et tout, parce que là, c'est un désastre, c'est un crime contre l'humanité ce qui est en train de se passer en France, 160 000 enfants abusés par jour, c'est un crime contre l'humanité, parce que c'est l'avenir du pays qui est mis en danger avec des enfants qui, à l'âge adulte, ne vont pas tourner bien comme il faut. Donc, on s'attaque à l'avenir d'un pays en s'attaquant à ses enfants. Non, mais c'est très, très grave. Et donc, tous les gens qui touchent à des enfants devraient être condamnés comme tels. C'est-à-dire terminés.
Oui, je suis d'accord.
Terminés. C'est-à-dire que ce soit... vous en fichez, je m'en fiche, que ce soit la corde, la guillotine. Moi, j'ai une idée de guillotine 3.0 extrêmement efficace. Mais... et peu importe, mais en tout cas, c'est pas possible. C'est pour ça que le président chinois, la peine de mort pour eux existait. Il l'a remis sur le devant, juste sur le devant de la scène. Un petit clin d'œil pour nous. C'est ce qu'a fait le président chinois. Et là, il en a fait partir, comme ça. Mais c'est un clin d'œil. Et vous voyez, comme quoi la sagesse, elle vient de partout. Donc en fait, voilà, je voulais dire quand même qu'on est quand même dans un pays compliqué, hein. Et sans boussole morale aucune.
Est-ce qu'on peut inviter nos auditeurs?
Alors, dernier message, une auditrice ancienne France était décentralisée et elle s'est faite petit à petit. Le roi Louis XV, par exemple, était obligé de laisser ses troupes à l'entrée de la ville pour pouvoir rentrer dans Marseille. Et, ouais, et moi, je me souviens de Louis XIV parce que des courtisans se plaignaient du bruit. Parce qu'il y avait beaucoup de bruit en fait devant Versailles et tout ça. Et bah oui, le peuple faisait du bruit. Et il disait, moi j'aimerais bien effectivement pouvoir faire quelque chose, je ne peux rien faire. Donc,
Cher Salsa,
alors, dernier message. Oui, bonjour à tous, grâce à vous et Internet, je viens de voir que l'utérus se dit Kyushu, formé de deux idéogrammes enfants, plus le temple shintoïste, assez ressemblant pour une fois. Belle émission. Et enfin, pour finir, Philippe Bornet, dédicace du livre, du présent faisons table rase. Aujourd'hui 4 juillet, nous sommes en direct, donc aujourd'hui 4 juillet de 16h30 à 18h30, vous y serez ou pas André Bercoff?
Non, malheureusement.
Non. À Duquesne, diffusion 27 avenue Duquesne, Paris 7e, métro école militaire. Et vous en avez, pour l'instant, c'est la seule dédicace.
Ah non, il y en aura certainement d'autres, mais c'est la première. Et donc, nous espérons y rencontrer les auditeurs d'aujourd'hui. Alors, et ceux de demain.
On recommande du présent, faisons table rase, Allô enfants de la Matrix, aux éditions de Chiré. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de recommandations de livres. Chacun un livre à recommander, justement, pour essayer d'être un peu plus éveillé et cultivé. Vous voulez recommander un livre aux auditeurs, en dehors du vôtre, en plus du vôtre?
Alors, je voudrais recommander l'avant-dernier livre d'André Bercoff, qui était paru chez Hugo Éditions, sur le réveil des peuples. Est-ce que tu peux redonner le titre exact?
Le retour des peuples.
Le retour des peuples.
Merci, oui. C'était chez Hugo Éditions, Le retour des peuples, justement.
D'accord. Et vous-même?
Et moi-même, je vais vous dire, relisez, si vous l'avez lu, si vous l'avez... Lui, relisez-le, Étienne Laboétie, le traité de la servitude volontaire. Voilà.
Et voilà. Et
donc, 1571.
Et puis beaucoup de livres recommandés à la fin de votre ouvrage.
Oui, c'est les éditions de Chiré qui ont aussi.
Les éditions de Chiré, voilà. Du passé, faisons table rase. Merci.
Du présent, faisons table rase.
Du présent, ah, oui. Alors,
ah, mais parce que Salsa aime le passé.
Qu'est-ce que vous voulez, bon. Allez. Bon, merci, amis auditeurs. À dans 4 semaines. On se reverra peut-être pour votre livre, hein, Philippe Bornet.
Ah oui, quand il sera né.
Oui, d'ailleurs, on le recevra.
Il est en gestation dans le temple, pour l'instant.
Oui, absolument.
Amis auditeurs, à dans 4 semaines. Merci, merci André Bercoff.
Merci à vous.
Philippe Bornet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. La joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur.
Vous venez d'entendre le libre journal de Salsa Bertin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, samedi 4 juillet 2026, de midi à 13h30, et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accéder à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.